BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
Le grand journal avec son premier invité ce soir, Jacques Généreux, économiste, professeur à Sciences Po, membre du Parti de Gauche et auteur aux éditions du Seuil de Jacques Généreux explique l'économie à tout le monde. Jacques Généreux, nous allons revenir sur évidemment les annonces de François Hollande. Tout ça s'est passé en deux temps. Une première annonce en disant voilà, si la croissance est là, il y aura des baisses d'impôts. Et puis deuxième temps, non, finalement, il y aura des baisses d'impôts pour tout le monde. Simplement, tout ça sera un peu modulé tout de même par la croissance. Et puis cet après-midi, c'est Manuel Valls qui a pris la parole et qui a annoncé que cette baisse d'impôts promise pour l'année 2016 était inscrite dans le projet de loi de finances, justement, pour 2016. C'est une bonne nouvelle, cette baisse d'impôts, ou c'est... alors, double question, évidemment que c'est une bonne nouvelle pour les Français, mais est-ce qu'elle est crédible, ou est-ce que c'est purement... marketing, j'allais dire, avec l'objectif 2017.
C'est bien tourné. Je dirais que la réponse est dans la question. Parce que ce qui est frappant quand même, c'est le sentiment d'absence totale de cap et de logique. Parce que le quinquennat de M. Hollande a commencé par une espèce de matraquage fiscal, de la rigueur. Il fallait faire passer les mauvaises nouvelles tout de suite. Et puis, alors après, on s'aperçoit que peut-être c'était un petit peu trop fort et que peut-être, en tout cas, pour les ménages qui ont les plus faibles revenus ou qui ont le moins d'impôts, on ferait peut-être faire un geste. Alors,
Est-ce qu'on peut y en vouloir, rendre aux Français un peu de l'effort qu'ils ont donné?
On a pris quelques mesures en 2014, sur l'impôt sur le revenu pour un certain nombre de ménages. Et puis, là, maintenant, on s'aperçoit que c'est pas assez. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que François Hollande dit il est naturel que les résultats, finalement, de notre politique bénéficient aussi aux Français. Mm-hmm. Alors, c'est extraordinaire parce qu'on se demande quels résultats. Et c'est-à-dire que, vous comprenez, si, par exemple, vous direz le résultat des efforts ou de la rigueur de la politique de l'offre qui a été mise en place, c'était qu'il y ait une baisse de chômage, un redémarrage de la croissance française grâce à la compétitivité. C'était ça la logique.
Qu'on nous promet, d'ailleurs.
C'était ça qu'on nous avait annoncé.
Mais qu'on nous promet, tous les spécialistes sont d'accord pour dire qu'a priori, sur la fin de 2015 et début 2016,
oui,
on devrait voir une baisse du chômage.
Bien sûr, on finira toujours par se relever. De toute façon, c'est mécanique économiquement. Ça fait partie des choses que j'explique dans mon livre. Quand vous avez eu 5 années de croissance molle, à un moment donné, il faut bien refaire les stocks, recommencer à investir, etc.
Il y a des cycles de tout.
Donc il y aura un petit peu de croissance, oui. Enfin, on aurait pu éviter d'avoir la récession dès le début si on n'avait pas commencé par cette politique imbécile de matraquage fiscal, de réduction des dépenses. Et donc tout d'un coup, à la fin, on pourrait se dire « Ah, bonne nouvelle !» Enfin, il a compris. Il n'a pas lu mon livre, mais il a quand même compris que ce n'était pas la bonne politique et qu'il faut faire autre chose. Manifestement, ça n'est pas ça. Car s'il comprenait que ce n'était pas la bonne politique, alors il faudrait pas seulement baisser un petit peu les impôts comme on va sans doute le faire pour les classes moyennes, comme on dit, etc. Ça n'aura aucun effet et ça n'effacera pas le sentiment de matraquage fiscal qu'ont eu les Français pendant les trois années précédentes. Donc je pense que c'est une erreur. Et donc s'attaquer au vrai problème. Il y a des impôts qu'il faut augmenter et pas qu'il faut baisser. C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre massivement dans la niche fiscale qui sert à rien. Dans la niche fiscale sur certains produits financiers qui profitent surtout aux très grosses entreprises. Cela, vous pouvez leur supprimer, ça va rien changer à leurs activités, à leurs investissements et à l'emploi. Vous récupérez des marges de manœuvre, non pas pour réduire les déficits, mais pour investir. Ce dont ce pays a besoin, et avait besoin dès le début, c'est d'un choc d'investissement pour faire redémarrer l'activité. Alors, on nous dirait aujourd'hui, on va faire ça, on va peut-être baisser un peu plus les charges sur les bas revenus, les très petites et moyennes entreprises pour relancer l'activité, peut-être, mais c'est pas cela dont il s'agit.
Ça va pas avec le discours actuel, en tout cas.
Donc, on voit bien que c'est quoi ? C'est simplement, on s'aperçoit que, bon, à l'arrivée, les résultats, il n'y en a pas. Les sentiments de beaucoup de Français, y compris des ménages pas pauvres, mais à revenus très très moyens ou très modestes, la remise en cause du plafond du quotient familial, ça a touché des tas de gens qui sont pas riches. Et donc maintenant, on dit il faut faire un petit cadeau fiscal. Tout le monde voit bien que c'est électoral, que c'est pas un changement de politique.
Mais s'il ne l'avait pas fait, on lui aurait reproché de la même façon. Quoi qu'il fasse, de toute façon, on va lui reprocher.
Mais ça, vous savez, c'est à peu près inévitable quand vous n'avez aucune colonne vertébrale politique qui vous donne un cap et une ligne que vous êtes capable de tenir jusqu'au bout. Le cap politique et économique de Monsieur Hollande, c'était une logique stupide, mais bon, c'était la sienne et celle de beaucoup d'économistes, hein, et en Europe et dans le monde et beaucoup de dirigeants européens. C'est même la logique dominante. C'est on sort de la crise par un effort de compétitivité, c'est-à-dire en baissant nos coûts, en baissant nos charges sociales, fiscales, etc. Donc c'est ce qu'on essaie de faire par les baisses d'impôts, par le paquet en faveur des entreprises, le pacte de responsabilité. On joue la carte de la compétitivité et c'est grâce à la compétitivité qu'on va relancer la croissance. Ce qui est une foutaise économique totale. D'ailleurs, la preuve est là, on n'attend pas. Voilà. Si tout le monde est plus compétitif en Europe, à l'arrivée, personne ne l'est. Si tout le monde court plus vite, personne n'arrive avant les autres. Donc on ne sort pas d'une crise de ce type-là comme ça. On le fait comme l'ont fait les États-Unis, le Japon, la Chine, etc. C'est-à-dire en investissant, en relançant massivement l'activité économique, en se fichant pas mal du déficit à court terme. Non. Alors, il a fixé un cap. C'était pas le bon. Alors, on pourrait s'attendre à ce que, à mi-mandat, s'apercevant que c'était pas le bon, il change de politique. Mmh. C'est ce qu'ont demandé, nous, au parti de gauche. C'est ce que demandaient les frondeurs au parti socialiste. Manuel Valls a réaffirmé qu'il n'était pas question de changer de politique. Donc, à l'arrivée, forcément, il sera toujours critiqué. Parce que même si maintenant il annonce des petites baisses d'impôts, un, ça ne va pas relancer la croissance et faire baisser le chômage. Et deux, encore une fois, je le dis, ça ne sera jamais suffisamment massif et important pour faire passer la pilule de ce qui a été considéré par beaucoup de Français comme un matraquage fiscal.
La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment va-t-il faire ces baisses d'impôts ? Il y a, a priori, soit baisse de l'impôt sur le revenu, soit baisse de la CSG. Ce sont les deux grandes théories, les deux grandes thèses qui s'affrontent aujourd'hui.
Je ne suis pas devin. Je veux dire qu'avec
sur quel levier peut-il
avec 1% de croissance maximum, peut-être un tout petit peu plus. Ben, on avait 0% au trimestre précédent. Hein, bon. Alors, on dit peut-être sur l'année 1% ou un peu plus. Bon, il y a les marges de manœuvre, c'est zéro. Il n'y en a pas. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas devin. Je ne suis pas à sa place. On va choisir. On va cibler quelques mesures en se disant sur des fins purement électoralistes, en essayant de voir à qui ça peut profiter de manière à récupérer quelques voix pour les prochains scrutins. Bref, c'est de la petite politique, ça ne changera pas grand-chose.
Bon, le budget 2016, il faut évidemment s'y pencher. Il sera dévoilé a priori à la fin du mois de septembre en Conseil des ministres, avec notamment des économies à trouver, des économies extrêmement importantes. On parle d'une vingtaine de milliards d'euros à trouver. Et puis il y a aussi l'objectif de rentrer dans les clous à partir de 2017 avec les 3% du déficit voulu par l'Europe. Est-ce que toute cette équation à multiplier inconnu peut trouver une solution.
Ah oui, mais en même temps, on voit bien avec l'affirmation de cette équation qu'on reste bien dans la logique initiale, qui est une logique fausse. Encore, faut-il le rappeler. Quand on est dans une économie à croissance moyenne extrêmement faible et on a commencé par une période de récession dans toute l'Europe, vouloir se fixer comme objectif une cible de déficit en pourcentage du PIB, un retour vers l'équilibre budgétaire, et ça va tout ce qu'on a fait en Europe, est une pure ânerie économique. Vous devez vous fixer comme objectif la reprise de l'activité, la reprise de l'investissement, la baisse du chômage. Trouver les instruments. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise...
La baisse du chômage faisait partie des priorités.
Dans les instruments, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise se remet à embaucher ? C'est qu'elle a un carnet de commandes plein. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait qu'elle a un carnet de commandes plein ? C'est pas parce que on baisse ses salaires ou ses propres charges ou qu'on augmente les impôts sur tout le monde que ça va remplir les carnets de commandes. Donc c'est une équation qui n'est pas tenable parce qu'elle est fausse dans son principe même. Mais on voit bien que la logique n'a pas changé. C'est-à-dire que ces gens-là n'apprennent rien. Ils n'ont rien appris des leçons de l'histoire, parce que tous ces débats, on les a eus dans les années 20, dans les années 30, à chaque crise, etc. Et puis on voit ceux qui sont raisonnables, qui sont pragmatiques, et qui oublient leur idéologie. Ça a été frappant dans l'histoire, les crises. Et ne serait-ce qu'en regarder aux États-Unis, vous aviez au départ un gouvernement républicain, des conservateurs, il n'y a pas plus conservateur que les républicains de Bush qui étaient là au début de la panique financière de 2007-2008, etc. Et ils ont fait quoi ? Ils ont fait des politiques keynésiennes. C'était pas du tout leur logiciel de pensée. Mais ils ont écouté des gens qui leur disaient, ben voilà, ils remettent pratique pour essayer de sauver l'économie américaine. Donc ça ne s'est pas passé en France et manifestement, on voit qu'on est toujours dans la récitation de leçons d'économie qui malheureusement sont fausses.
Un mot du pacte de responsabilité, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure. On entend beaucoup dire que les entreprises ne jouent pas le jeu. Et à ce titre, est-ce que le chef d'État a raison, du coup, de, pour le moment, maintenir son cap ?
Oui, mais écoutez, c'est vrai que quand on le dit, et c'est très probablement exact, que les entreprises ne jouent pas le jeu. Mais quel jeu ? Puisque il n'y a, si on s'attend effectivement que des entreprises, surtout les très grandes entreprises, jouent spontanément le jeu qui consiste à utiliser des marges de manœuvre financières qu'on leur donne pour créer des emplois, bah il faut, c'est qu'on rêve, c'est le monde des bisounours. On n'est plus dans le capitalisme familial ou managérial à la papa des années 60. On est dans un capitalisme mondialisé qui vise la rentabilité financière maximale et qui a des contraintes de compétition, des exigences de fonds d'investissement en matière de rentabilité. Si vous laissez ces gens-là libres de faire, ils font ce qui leur apporte de l'argent. Vous leur donnez plus d'argent en leur faisant des cadeaux fiscaux et sociaux, vous croyez qu'ils vont réinvestir et embaucher. Mais quand bien même ils auraient l'intention de le faire, vous investissez, vous rembauchez encore une fois, mais pourquoi faire ? Pour produire quoi ? Pour vendre à qui ? Quand vous avez une économie européenne qui est à l'arrêt à cause des politiques d'austérité imbéciles. Donc, certes, le patronat ne joue pas le jeu, mais d'une part, on aurait dû exiger que les aides financières éventuelles aux entreprises ou les baisses de charges, comme on dit, soient strictement liées à des engagements précis en matière d'activité, d'investissement ou d'emploi, ce qui n'a pas été le cas. Mmh. Les patrons ne voulaient pas en entendre parler et le gouvernement a cédé là-dessus. Et il aurait fallu, par ailleurs, que vous ayez une politique économique adaptée qui soit une politique de soutien de l'activité et de la croissance. Et là, ça se tenait. Mais là, dans tout cela, rien ne se tient. On est dans le bricolage d'une politique économique dont on voit les résultats.
Bon, on va faire un tour en Grèce, si vous voulez bien.
Ah oui, avec c'est important, à mon avis.
Démission d'Alexis Tsipras. Est-ce que vous pensez, avant de parler de la démission, et puis malgré tout du côté politique de la chose, que l'accord qui a été trouvé reste un crime contre la démocratie ?
Ah ben la façon dont ça s'est passé, c'est une évidence. C'est un diktat imposé par des créanciers qui prennent à la gorge un tout petit pays et qui peut pas faire face à ses engagements et à sa dette et puis qui conditionne, c'est le vrai chantage. C'est-à-dire soit on vous laisse tomber, on vous laisse en faillite et vous vous débrouillez tout seul, et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'ils auraient dû faire, mais bref, soit vous passez par nos conditions.
Bon,
donc ça s'est bien passé comme ça, en dépit de la réaffirmation démocratique par référendum que le peuple grec ne voulait pas de ces mesures et de ce plan. On a véritablement forcé la main, jusqu'avec l'aide de la Banque Centrale Européenne, qui a outrepassé ses fonctions, qui a même, je dirais, trahi sa mission. Un pays étant en situation de crise, le rôle de la Banque Centrale, c'est plutôt d'éviter la faillite, au lieu de freiner le robinet des liquidités d'urgence, comme elle l'a fait pour faire pression en quelque sorte sur les Grecs, elle aurait dû l'ouvrir. Donc oui, il y a manifestement, c'est un acte de la dictature organisée de l'Eurogroupe, contre la volonté démocratique d'un pays de faire une autre politique que la politique d'austérité.
Bon, Syriza est en train d'imploser, on l'a vu cet après-midi notamment. Est-ce qu'il y a un vrai risque, selon vous, pour Alexis Tsipras à cette démission et à ces élections législatives anticipées ?
Je crois que le terme de risque n'a pas beaucoup de sens. Enfin, je ne dis pas que ce que vous dites n'a pas de sens, je ne me permettrai pas.
Vous pouvez le dire.
Oui, non, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que rapporté à la personnalité de Tsipras et à ce que je comprends de sa démarche et de son action, c'est pas comme ça que les choses. Ça aurait un sens si on avait affaire à quelqu'un qui est un politicien ordinaire, un stratège qui est là au pouvoir, qui veut garder le pouvoir, etc.
C'est quand même montré
donc,
un stratège.
Et donc, dont on se dit finalement, mais là, est-ce qu'il joue pas son va-tout, est-ce qu'il prend pas des risques? La réalité, c'est pas ça. C'est pas de la petite politique de ce niveau-là. Ce que nous vivons à ce moment-là, c'est de la très très grande politique au niveau de l'histoire avec un grand H. Voilà un personnage qui a pris des engagements forts devant le peuple dans les élections, a dit qu'il n'y aurait plus de plan d'austérité, a bataillé pendant 6 mois avec les créanciers européens pour essayer d'obtenir de vraies concessions pour éviter l'austérité. Il a perdu cette bataille. Bon, et il a dû capituler, même après avoir pris le soutien populaire à travers un référendum, etc. Il a subi l'humiliation de pays, et c'est honteux pour l'histoire de l'Europe, de pays européens qui se sont coalisés pour dire « mais on se fiche pas mal ». Qu'un peuple démocratique dise, démocratiquement dise, on veut une autre politique. On s'en fout. Ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que vous fassiez ce qu'on vous dit de faire. Donc, on a imposé l'humiliation totale à ce pays et à ce gouvernement. Et donc, que fait-il? Il raisonne pas en stratège. Il raisonne en homme politique à la hauteur du moment. Il dit, moi, j'ai pas été élu pour ça. Et donc, il dit, c'est normal, j'ai dans mon propre parti, effectivement, une dissension, donc je perds une partie de ma majorité parlementaire, et je n'ai pas de mandat, il pourrait rester au pouvoir. Mm-hmm. S'il, là, il prendrait aucun risque, comme vous le disiez, il pourrait rester au pouvoir, il est élu. Donc, il dit.
Le risque, c'est une nouvelle période troublée, en tout cas.
Non, au contraire, ça apporte de la clarification. Et il faut bien comprendre que c'est cette méthode-là, la méthode qu'on a retrouvée aussi dans certains pays d'Amérique latine, ces dernières années. Cette idée fondamentale, et qui est chère, à Jean-Luc Mélenchon notamment et évidemment à mes amis du parti de gauche, de s'en remettre au peuple. Quand on est dans une situation telle que celle-là, on n'a pas reçu mandat pour faire quelque chose, c'est le peuple qui est souverain. Et donc ça clarifie. Ça clarifie parce que, et y compris pour les créanciers et pour tout le monde. Il dit, moi j'ai pas eu mandat pour faire ça, et donc de manière démocratique, je vous dis, dites-moi si vous pensez que vous pouvez encore me faire confiance pour essayer au moins d'obtenir le meilleur. Car il n'a pas tout perdu, Tsipras, pour la Grèce, si, par exemple, il arrive à obtenir véritablement une renégociation.
Ouais, justement, c'était ma dernière question, et en quelques secondes, parce qu'on est pris par le temps, mais est-ce que vous pensez que le FMI va réussir concrètement à faire pression sur l'Allemagne pour un rééchelonnement ou une renégociation de la dette ?
Bien, on le souhaite, mais on ne sait pas si ce ne serait pas nécessaire de procéder d'abord à un lavage de cerveau des dirigeants européens, parce que là aussi, on est dans l'ânerie économique la plus totale. Tous les économistes sensés savent que cette dette n'est pas payable. Et que la seule solution, c'est effectivement un effacement large, voire total, et que ça coûterait en réalité pas cher. Donc, c'est la voie essentielle. Et peut-être que Tsipras, en restant, et en ayant concédé malgré tout cette austérité, s'il peut obtenir au moins l'effacement ou la renégociation sérieuse de la dette, il n'aura pas tout perdu. C'est ce qu'il demande aux Grecs. Il leur dit, est-ce que vous me faites confiance ? Ben, s'il ne leur fait pas confiance, eh bien, il y aura une autre majorité, mais qui fera la même politique.
Et voilà donc pour l'éclairage de Jacques Généreux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business, économiste, prof à Sciences Po, membre du Parti de Gauche et auteur donc de Jacques Généreux. Explique l'économie à tout le monde, publié chez Seuil. Merci encore. Vous restez avec nous dans quelques instants après la petite pause. Eh bien, on s'intéresse à Twitter. On va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi le cours de bourse passe sous sa valeur d'introduction. C'est à suivre donc dans la suite de ce grand journal.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
Et c'est Frédéric Simotel qui est avec nous. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir David.
Éditorialiste high-tech, BFM TV et BFM Business. On a voulu vous avoir Frédéric parce que il se passe quelque chose là actuellement hein, sur Twitter. Alors même si le cours reprend un peu de couleur là cet après-midi, il n'empêche qu'hier, eh bien, il est passé sous son cours d'introduction. Ça veut dire deux choses. Ça peut vouloir dire deux choses. Le cours d'introduction, c'est novembre 2013, hein, si oui, je ne me trompe pas. Soit ça veut dire qu'effectivement, il y a un problème, un gros problème sur Twitter, mais problème profond et structurel, problème de business. Soit ça veut dire que les investisseurs n'ont absolument rien de rationnel.
Alors c'est plutôt qu'il y a un gros problème chez Twitter, parce qu'elle est loin à l'époque. On se souvient quand Twitter a été introduit, donc effectivement en novembre 2013, introduit en bourse, tout le monde le voyait comme l'équivalent de Facebook, donc mm-hmm. l'action qui valait à l'époque $26, hein, le cours d'aujourd'hui à peu près, ouais. Était monté, mais en janvier 2014, on était monté à $70. Voilà, donc depuis, on a vu ce prix de l'action. Ça a débuté en avril, hein. En avril 2015, on a vraiment vu cette chute. Donc là, l'action, en un an, la valeur a perdu plus de 40%. Et donc même 62% par rapport à ce taux historique le plus haut en janvier 2014. Alors plusieurs choses. Hein. Les premières sont les faibles perspectives de croissance. Je vais en reparler dans un instant. Et puis ce problème de gouvernance, car et oui, ça bouge pas mal au sein du management de Twitter. Alors les problèmes de croissance, elles viennent sur déjà le modèle économique. On a du mal à voir les investisseurs ont du mal à voir comment Twitter va se faire de l'argent.
Pardon Frédéric, mais c'était déjà le cas quand Twitter a été introduit en bourse. On découvre pas la lune là, on le savait qu'il y avait quand même un problème et voilà, on voyait pas comment Twitter allait pouvoir rentabiliser tout ça.
Oui, mais on pensait qu'ils allaient peu à peu mettre en place, un peu comme l'a fait Facebook, voilà, des tweets sponsorisés, des choses sur la vidéo. C'est ce qui doit arriver aujourd'hui chez Google, mais ce que l'on a vu, c'est que première chose, le site attire moins d'utilisateurs. On stagne au niveau, parce que à un moment, Twitter pouvait masquer le fait d'avoir un peu moins d'initiative pour y aller de l'argent par le fait de recruter en masse des membres. Mais là, on voit qu'aujourd'hui, Twitter est aux alentours de 316 millions d'utilisateurs dans le monde. Ça stagne.
Voilà. Contre eux, par exemple, si on devait donner un comparatif avec Facebook, par exemple.
Voilà, Facebook est à 1,5 milliard.
Ah oui.
Donc, en continuant à croître régulièrement. Là, vraiment, on voit depuis quelques mois une stagnation. Ça bouge plus trop. Alors, la première cause, c'est vrai que c'est pas un produit grand public comme on peut le voir pour Facebook.
C'est complexe.
C'est-à-dire, c'est complexe. On tweet, on retweet, on met des hashtags. Donc, c'est pour des gens un peu novices, ça peut paraître un outil pas très facile. Et c'est vrai qu'on le voit en France. Hein, c'est surtout utilisé par les médias, par les artistes, par les politiques. On voit un peu le grand public s'y mettre, mais vraiment de façon assez modérée. Donc, déjà là, il y a un problème pour trouver des relais de croissance avec beaucoup plus d'utilisateurs. Alors,
juste, c'est intéressant ce que vous dites, parce que nous, effectivement, à la rédac, toute la journée, on entend parler de Twitter, dans les couloirs, c'est
tweeter,
pareil.
On écrit un article, on a une info, il faut
le faire absolument. Il faut être sur Twitter, si on n'a rien publié depuis 2 heures, c'est qu'on est quasiment mort. En fait, vous me dites que dans le grand public, c'est pas du tout ça, quoi.
Non, dans le grand public, voilà, Facebook marche beaucoup mieux, on met ses photos, on met choses, puis voilà, mais vous allez comprendre, Twitter, en fait, ce qui manque à Twitter aujourd'hui, alors je parlerai de la gouvernance après, mais pour ce problème de croissance, c'est que la technologie, elle doit être complètement repensée. Aujourd'hui, Twitter, c'est une série de messages qui s'affichent les uns après les autres. Alors après, on glisse des liens internet, on glisse des photos, mais voilà, c'est dans ce qu'on appelle dans un sens antéchronologique, c'est-à-dire voilà, il est à 18h01, on a un tweet, à 18h02, à 18h03, et puis voilà, on suit comme ça la série des tweets. Mais difficile là-dedans de trouver un moyen de gagner de l'argent, de mettre des tweets sponsorisés.
Ça existe, pourtant il y en a quelques-uns. Enfin, moi,
ça existe, mais
sur la timeline, il y a des tweets sponsorisés.
Mais le retour sur investissement de la part des annonceurs n'est pas aussi bon que ce qu'ils apprécieraient. Donc la première chose, ce sur quoi doit travailler Twitter, la première chose, ils ont sorti un outil cet été qui permet de faire une première sélection. C'est-à-dire ce que vous avez manqué, les 10 tweets que vous avez manqué pendant les 4 heures où vous n'avez pas été sur votre site. Parce que le problème avec Twitter, c'est ça.
C'est qu'on est noyé, en fait.
Voilà. Si là, on reste une heure ensemble dans cette émission, il s'est passé tellement de choses sur Twitter que lorsqu'on en sort, lorsqu'on va sortir dans une heure, on va pas se remettre à lire tous les tweets, donc on a certainement manqué des choses. Donc première chose, des outils qui permettent un peu d'éditorialiser le contenu. Donc ça, c'est ce sur quoi doit travailler Twitter. Deuxième chose sur laquelle Twitter doit travailler, c'est une façon de rentabiliser les tweets. C'est vrai que les tweets, on les voit sur le réseau Twitter, mais on les voit repris sur nos chaînes de télévision, on les voit repris sur d'autres sites qui ont une petite fenêtre Twitter. Et ça, Twitter aujourd'hui n'a pas su monnayer cette apparition sur d'autres sites, sur d'autres médias. Et ça, c'est sur quoi Twitter doit travailler. Ils ont une régie pub qui s'appelle le Mopub, qui est notamment la régie pour tous les investissements en ligne. Donc c'est là où ils doivent essayer de monétiser tout ça. C'est quand on met un tweet avec une vidéo et que ce tweet est repris, eh bien là, il faut essayer de monétiser tout ça. Aujourd'hui, vous allez être un annonceur, vous allez faire un tweet sur une vidéo pour, je sais pas, une boisson, pour un soda. Vous allez mettre une vidéo. Vous n'allez pas avoir... Aujourd'hui, on n'est pas dans un système de rémunération au clic. Donc, il n'y a pas d'engagement.
Comme sur YouTube,
là,
par exemple.
Voilà, il y a un vrai travail, travail à faire là-dessus. Un vrai travail à faire aussi sur les jeux vidéo sur mobile, tous ces petits jeux que l'on voit, que l'on télécharge sur les mobiles. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent avec Twitter, mais ça aussi, ils n'ont pas trouvé le bon modèle économique pour monnayer tout ça. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment un problème de croissance, un problème d'innovation. Donc là, ça va être à eux de travailler là-dessus. Et justement, on en vient, parce que les deux sont liés, on en vient à ce problème de gouvernance. Voilà, puisqu'on sait que le patron qui était Dick Costello, qui était le directeur général depuis 2011...
Il est parti.
Il est parti cet été. Alors, mauvaise nouvelle en interne, parce qu'en interne, il était plutôt apprécié, mais très bonne nouvelle pour l'externe qui n'appréciait pas trop ce patron, qui était toujours un peu trop optimiste par rapport aux chiffres donnés. Donc là, c'est Jacques Dorsey, qui est l'un des 3 cofondateurs, qui a repris en main pour l'instant la direction, mais il le dit lui-même, par intérim. C'est-à-dire qu'il ne conçoit pas le fait de rester...
Même pour les investisseurs, c'est quand même pas un bon signe.
Voilà, c'est pas un bon signe que l'un des cofondateurs dise « je reviens, mais bon, j'espère trouver quelqu'un ». Donc là, il y a un vrai problème de gouvernance, il faut trouver la bonne personne. Donc là, on a un peu de mal parce qu'il faut quelqu'un qui, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ait en tête tous ces modèles, sache monétiser tout ça. Il y a aussi un sujet important, c'est la fuite des talents. C'est que chez Twitter, il y a pas mal d'ingénieurs, de très bons ingénieurs, mais beaucoup sont rémunérés à l'action Twitter. Alors, on l'a dit au tout début, l'action est tombée. Donc,
pas manger grand-chose en ce moment.
Ils vont peut-être avoir envie d'aller voir ailleurs. Il y a des sirènes chez Uber, chez Airbnb. Évidemment. Voilà, il y a
c'est
tout un tas de gens qui les attendent. On l'a vu d'ailleurs en France. Hein, en France aussi, le patron a changé. Hein, en juillet, on a Damien Viel qui va arriver, qui est nommé en juillet. Là, la France est un petit peu particulière parce qu'on a vu Twitter occupe plutôt une niche, alors que Twitter, théoriquement, c'est un outil de communication de masse. Donc voilà, donc beaucoup de choses à renouveler. Vraiment des nouveaux outils, des nouvelles solutions, de nouvelles innovations, et puis surtout une gouvernance qui redonne confiance aux actionnaires, aux investisseurs.
On suivra évidemment l'évolution du titre. Merci beaucoup Frédéric Semotel d'avoir été avec nous pour vos explications également sur ce qui se passe donc actuellement autour de Twitter. Frédéric Semotel, éditorialiste high-tech BFM et BFM Business. Vous restez avec nous, on marque une très très courte pause, quelques secondes seulement, et on accueille Dominique Régnier, notre nouvel invité.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Dauba.
Avec Dominique Régnier à présent autour de la table, le directeur général de Fondapol, le candidat Les Républicains pour la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. On vous a évidemment connu longtemps, hein, politologue. D'ailleurs, est-ce que vous...
Toujours politologue.
Ouais, mais bon, un peu politologue un peu atypique. Et d'ailleurs, vous dites, je suis un candidat atypique. Vous avez toujours l'impression, maintenant ça fait quelques mois hein, que vous avez mis vraiment les mains dans le cambouis, vous avez toujours l'impression de rester atypique dans ce milieu-là?
Bah, de toute façon, quand on s'engage comme moi à ce moment-là de la vie, on peut pas changer radicalement. On reste nécessairement le même. Et puis en même temps, parce qu'on est dans un univers différent avec des règles qui sont particulières aussi, on est obligé de s'adapter. Donc une partie de moi-même s'adapte sans doute à l'environnement nouveau que je connais aujourd'hui.
On va évidemment parler politique, on va parler économie. Mais qu'est-ce que votre expérience de politologue vous interdit de faire en tant qu'homme politique?
Rien du tout. Non, je réfléchis. C'est une très bonne question. Pardon, j'avoue que je ne me l'étais pas posé. Je réfléchis, je vois pas. Ce qui est très intéressant, c'est que ce que je savais de la politique, puisque c'était mon métier de l'observer, de l'analyser, je ne découvre pas de choses nouvelles. Ce que je vois, ce que je vis, ce sont des choses que je savais pour les avoir observées. Mais simplement, aujourd'hui, c'est pas du savoir, c'est de l'expérience. Et donc, d'ailleurs, je l'ai dit à l'instant, c'est quelque chose que je vis. Et la sensation n'est pas la même. Et la connaissance non plus, d'ailleurs. Ça change profondément.
Et la langue de bois, peut-être?
Je pense. Alors, j'ai peut-être sacrifié à cet exercice fameux. Je ne sais pas. J'essaie de pas le faire parce que je voudrais être dans une démarche sincère. Parce que je crois qu'il y a une attente de cela. Je ne promets pas d'y arriver toujours. J'espère le tenir le plus souvent possible.
Bon, allez, on va parler.
Et une promesse est un engagement. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu que le Premier ministre, grâce à vous, j'ai appris, disait à propos de la baisse d'impôts, ça n'est pas une promesse, c'est un engagement. Il faut savoir qu'une promesse, ça, c'est un engagement. C'est la même chose.
Eh ben justement, parlons-en donc de cette baisse d'impôts. C'est purement électoraliste comme décision. En tout cas, l'annonce n'est évidemment pas anodine.
C'est certainement électoraliste. C'est aussi, je pense, un effet d'affolement. Il y a une panique qui saisit le gouvernement. Rien ne marche. Les choses ne vont pas. Ça n'est pas être polémique que de dire que le chômage ne baisse pas, que rien ne va sur le plan... Il n'y a pas de croissance. Enfin, on le sait bien. Le déficit est énorme. La dette atteint presque 100% du PIB. Rien ne va. Et après avoir augmenté depuis 2012 de 100 milliards les prélèvements obligatoires. Donc si c'était ça la solution, on aurait des effets bénéfiques, on les a pas. Si la dépense publique était la solution, ça irait bien, puisqu'on est un des pays d'Europe qui dépense le plus. Ça ne va pas non plus. Et là, un peu en catastrophe, ils décident d'annoncer, on verra, une baisse d'impôts. Mais moi, ce que je trouve un peu curieux, c'est que j'apprends aussi sur votre chaîne qu'il y a une instabilité des marchés financiers aujourd'hui, notamment à cause de la crise chinoise.
6% sur la semaine, on rappelle.
Voilà, et c'est dans ce moment-là où la France n'est pas sûre de pouvoir s'approvisionner pour refinancer sa dette à des taux avantageux. C'est pas sûr qu'on maintienne cette espèce de confort. En tout cas, c'est dans ces moments-là qu'on annonce une baisse des impôts. Je trouve ça un peu curieux.
Vous voyez une corrélation entre les deux, vous ?
Non, je trouve ça... Non, je veux dire que c'est imprudent. Simplement, à la limite, c'est un peu tard maintenant. Il fallait avoir une vraie stratégie fiscale. Si on augmente de 100 milliards d'impôts pendant presque 4 ans pour tout d'un coup, à la veille d'élections, annoncer des baisses d'impôts, on dit 2016, c'est-à-dire la dernière année complète avant 2017. Donc au fond, c'est trop tard maintenant.
Est-ce qu'il fallait revenir sur le pacte de responsabilité ?
Moi, si vous voulez, je n'adhère pas à ce genre de politique, de politique publique. Le pacte des responsabilités, c'est quoi ? Si je le résume, ça consiste à dire aux entrepreneurs, un, on augmente la complexité administrative de votre action d'entrepreneur. Deux, on augmente les charges fiscales, sociales. Puis trois, quand on voit que c'est trop, on fait un pacte pour vous en rendre une partie. C'est absurde. C'est shadowkien comme politique. On pompe sans arrêt pour aller inonder une cave et installer une pompe pour la vider de l'eau et la mettre dans la précédente. C'est absurde. La vraie.
Ça avait pourtant été plutôt salué par les entrepreneurs et par les chefs d'entreprise.
Mais parce qu'il y a une espèce de court terme. On est pris. Alors, je fais la différence entre les grandes entreprises qui ont toujours la capacité de s'en sortir, y compris par le déplacement de leur siège ou autre. Mais les entrepreneurs, ceux qui font l'emploi, j'ai envie de dire les vrais entrepreneurs, les petits et même les moyens, eux, non, ils sont en grande difficulté. Et quand on leur dit, on va réduire un peu vos charges, ben, ils prennent, bien sûr. Mais la vraie politique qu'il fallait mener, c'était, dès le départ, soutenir celles et ceux qui créent de la richesse, donc de l'investissement et de l'emploi. On sait très bien que ça marche comme ça. Et non pas les encombrer de réglementations réellement compliquées. C'est pas une chimère, ça. Hein.
Mais là, aujourd'hui, il a raison de dire non, je ne reviendrai pas sur mon engagement de ce pacte de responsabilité.
De toute façon, l'inconstance, elle est complète dans le gouvernement. Et puis, les écarts sont énormes. On citait encore tout à l'heure, à propos d'une rencontre qui va avoir lieu bientôt, on citait Arnaud Montebourg. Mm-hmm. Bon, quel rapport y a-t-il entre Arnaud Montebourg et Macron ? Quel rapport ? Aucun.
C'est bien pour ça qu'il ne fait plus partie du gouvernement.
Oui, mais ça veut dire, où est la politique ? Où est la continuité ? On a augmenté les impôts, on annonce des baisses, on passe de Montebourg à Macron, enfin, on ne sait pas. Et puis, surtout, le résultat est toujours le même. C'est un échec total sur le plan de l'emploi.
Justement, vous attendez un coup d'éclat d'Arnaud Montebourg ce week-end. Alors, on sait qu'il sera avec Yanis Varoufakis, mais vous attendez un coup d'éclat, on se rappelle de la cuvée du redressement de l'année dernière, notamment.
Il en fait beaucoup, c'est un peu sa façon de faire de la politique, donc pourquoi pas le fait d'inviter déjà.
Il est toujours politicien ?
Je crois que cette invitation-là me paraît être un acte politique, hein, et une façon de dire, au fond, je préempte ou j'essaie de préempter un territoire à gauche du PS qui a été raté par Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu ça l'idée, je pense. Hein. Donc c'est un acte politique.
On parlait de mesures purement
électoraliste.
Merci, que je n'arrivais plus à trouver. Que pensez de l'annonce faite ce matin par Alain Juppé, qui souhaite augmenter le salaire des enseignants du primaire de 10%, à condition qu'ils restent un petit peu plus longtemps dans l'établissement, qu'ils soient un peu plus à la disposition et des élèves et des parents d'élèves?
Moi, je pense que c'est une piste sur laquelle on n'a pas suffisamment travaillé, on ne s'est pas suffisamment engagé, que de revaloriser le métier d'enseignant d'une manière générale, car c'est un métier, on le sait l'importance, on en sait la difficulté qui est de plus en plus grande, on ne va pas le développer, mais c'est une réalité.
Il faut d'ailleurs créer plus de postes d'enseignants ?
Non, moi je crois qu'il faut organiser très différemment l'enseignement, ça c'est une grande question. On parle du primaire et du secondaire ici, hein, pour ne pas partir sur tous les sujets, mais il faut organiser très différemment l'enseignement, sans doute faire en sorte que, dans le primaire c'est déjà vrai, les enseignants restent beaucoup hein, dans les salles de classe, ça n'est pas comme dans le secondaire, parce qu'ils ont beaucoup de copies à corriger à la maison, etc. Créer ce lien plus fort, certainement, oui. Modifier le contenu des enseignements, oui. Aller vers des savoirs fondamentaux qui seraient des savoirs indispensables, en particulier apprendre à lire et à écrire, et revaloriser le métier, oui, mais ça peut vouloir dire aussi avoir moins d'enseignants, beaucoup plus impliqués, beaucoup mieux payés.
Bon, on aurait pu parler de la Grèce, il nous reste quelques secondes, et je voulais quand même savoir comment se présenter la bataille pour les régionales dans votre région, justement, avec quelqu'un du ex-gouvernement, Carole Delga, en l'occurrence.
Très bien, écoutez, pardon de le citer, le dernier sondage me place en deuxième position à 25%, devant Carole Delga à 19%. Il est vrai que le Front National, Louis Alliot, qui a participé à cette opération familiale de purge dont on a parlé aujourd'hui, où ils essaient de se débarrasser du papa fondateur après avoir mis la main sur le magot.
À tort, à raison. En deux mots.
Moi, je trouve que ça, enfin, en tout cas, moralement, c'est très choquant de voir cette espèce de famille qui jusqu'ici a prospéré sur le malheur des autres, d'ailleurs, s'emparer du magot avec, voilà, des opérations qui semblent à la limite, en tout cas, la morale, hors moralité, ça c'est sûr, et peut-être à la limite du droit, mais on va le voir, parce que l'aventure et la saga continuent.
Donc, ouais, Carole Delga, derrière vous pour le moment.
À 19%, donc pour moi, c'est très encourageant et je persiste à penser et à dire que je vais gagner en décembre 2015.
Merci beaucoup, Dominique Régnier, d'avoir été notre invité sur BFM Business, candidat donc Les Républicains pour la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon et le directeur général de Fondapol. Vous étiez le dernier invité du Grand Journal sur BFM Business, puisqu'à partir de lundi, eh bien, c'est un nouveau rendez-vous que vous allez pouvoir découvrir. Edwige Chevrillon, accompagné de Guillaume Paul pour l'heure H, vous donneront rendez-vous donc tous les jours entre midi et 13h et entre 18 et 19h. Une grande pensée pour tous ceux qui se sont succédés à la tête du Grand Journal depuis des années et des années et des années. En ce qui me concerne, ça a été un véritable plaisir de vous accompagner, principalement l'été. Passez une excellente soirée. À suivre dans quelques instants Chine Hebdo avec Mathieu Jolivet. Et on se retrouve évidemment lundi. Passez un excellent week-end.